Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de l'appel de Coluche pour les Restos du Cœur. La bourse fait plus 1,44%. Bon anniversaire, au revoir.
Je suis en train d'écouter l'émission de Philippe Meyer. Même lui, il en rajoute sur les cyclones aux États-Unis. Mais merde, bordel, hein, quand il y a un cyclone au Bangladesh qui fait 100 000 morts, on n'en parle pas. Quand il y a un cyclone qui dévaste le sud de Madagascar et qui fait 40 000 morts, là, on n'en parle pas non plus. Bon, alors, deux poids, deux mesures, mais qu'on arrête de nous seriner les oreilles avec ces États-Uniens. Hein, qu'on remette les choses à leur place. Bordel. Bon, allez, salut.
Bonjour, Daniel Vermet. Bonjour, les fidèles de la Bâche J'y suis. Voilà une annonce parue dans le petit journal local qui risque fort d'intéresser nos politiques en recherche de pistes pour l'emploi. Alors, prenez de quoi noter si vous avez le profil. Écoutez, recherche femmes logées, nourries, pécules, pour compagnie d'âmes malades. Et câlin pour monsieur. Voilà, ça se passe en Périgord, au pays de Jacques Croquant. Non, c'est pas pour de la figuration. Mais quelle avancée sociale, les belles sont prévenues au moins. Elles se font culbuter par les chatelas, mais elles sont prévenues. Excusez la grossièreté, mais bon, si on appelait un chat un chat, il y a de l'avenir en Périgord. Après les contrats précaires de l'été, voici les contrats pervers pépères de l'hiver. Salut, je vous envoie l'annonce si ça vous intéresse. C'était le petit coup de gueule de Yo-Yo en Dordogne.
Je m'étonne que personne ait gueulé à l'encontre des propos hallucinants de Monsieur François Baroin sur votre répondeur. Encore que je n'ai pas écouté l'émission de mardi. Ce n'est pas un reproche, pardon, il y a tellement de sujets de colère. Concernant ce fameux droit du sol que François, bon français, voudrait supprimer, visant plus spécifiquement Mayotte et certainement la Guyane. On veut faire payer aux petites gens, bien sûr, les plus vulnérables, les carences d'un État. Mayotte, 374 km² seulement, territoire ridicule finalement. Accueille, il est vrai, une très forte immigration clandestine, venant quasiment tous du même endroit, Anjouan, une petite île située non loin au nord-ouest de Mayotte, qui navigue sur de simples embarcations, les fameux Kwassa Kwassa, très dangereuses car surchargées. Mais on voudrait nous faire croire que la France n'a pas les moyens ou la logistique d'endiguer ce phénomène. Alors que l'on trouve finalement la douane volante sur le territoire métropolitain, à Clermont-Ferrand par exemple, il y a comme un problème. Et malheur à tous les Mahorais qui hébergent leurs cousins anjouanais, comoriens ou moéliens. Où va-t-on ?
Oui, bonjour. Je viens d'apprendre qu'on a arrêté ce matin 6 dangereux terroristes. Entre parenthèses, on en avait déjà arrêté 6 la semaine dernière qui ont été relâchés. Et comme par hasard, notre cher ministre de l'Intérieur passe ce soir à la télé pour une émission, bah, justement, sur le terrorisme. Voilà, c'est quand même bizarre. Hein. Salut.
Oui, bonjour, c'est Françoise Paris 20e pour vous dire que ça s'est bien passé, le café repère au lieu dit. On était une cinquantaine, on était même très nombreux, ça n'a pas été facile au début. Et j'ai envoyé un compte-rendu, mais j'ai essayé de le faire passer par votre site et ça marche pas. Je comprends pas trop, donc j'ai envoyé par le site général de France Inter, en espérant qu'il fasse suivre. Voilà, merci, à bientôt.
Et ben voilà, ça s'est bien passé. Le premier, c'était le premier repère dans ce bistrot du 20e arrondissement qui s'appelle le lieu-dit, une cinquantaine de personnes. Pas mal, hein? Voilà, et les repères se multiplient à travers l'hexagone, dans les petits villages, dans les villes, dans les quartiers. Vous êtes nombreux à nous dire, voilà, nous, on a trouvé un bistrot qui va être le repère des amis de là-bas, si j'y suis, et on va se réunir, voilà, tel jour, à telle heure, pour la première fois, puis après, ce sera chaque semaine. Et ça roule, continuer de nous donner des nouvelles du front des repères au 01 56 40 37 37 qui est, comme vous le savez, le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Nous, toute l'équipe de là-bas si j'y suis, évidemment, va regarder le Sarko Show de ce soir. Il y en a tous les jours, mais celui-là, il va être mieux que d'habitude. Et en cela, nous différons de ce que vous venez d'entendre sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est-à-dire cette France qui grogne, cette France qui n'est jamais contente, cette France qui dit non et qui ricane. des malheurs de notre ami Sarkozy, son frère Guillaume, véritable croisé de l'ultralibéralisme qui doit fermer son usine de textile dans le Nord à cause des textiles chinois et qui laisse une pelletée de salariés sur le carreau. Angela Merkel, la dame de fer totone qui pourrait très bien remplacer Cécilia et qui n'a pas rencontré le triomphe libéral que l'on sait. Et puis, ce n'est pas tout, il y a aussi des étrangers qui sont pas contents, des gens qui ne sont pas forcément en règle avec la loi, des sans-papiers par exemple. Samedi, place Clichy à Paris, ils étaient nombreux, très nombreux, selon les manifestants et beaucoup moins selon la police, à protester contre les expulsions, contre l'acharnement du gouvernement contre les sans-papiers. La réponse du gouvernement aux victimes des incendies, c'est, eh ben voilà, c'est renvoyons-les. Il n'y a qu'à les renvoyer. C'est le Karcher et le Charter. Mais quand même, il se trouve des citoyens intrépides et courageux qui se mobilisent. La preuve, Pascal Pascariello était là avec son micro.
Jean-Claude Damarin, porte-parole de Droit Devant. Bah aujourd'hui, on assiste à une vague sans précédent, selon nous. En 15 ans de combat permanent autour du logement, autour des sans-papiers, autour des précaires, des démunis, on n'a pas souvenir d'avoir vécu une période aussi grave que celle-ci, où on sent que le tout est permis est en train de s'instaurer, de se banaliser, où on parle de Karcher, de Charter, c'est-à-dire de faire peser sur les pauvres, les démunis, les précaires et principalement les immigrés, les sans-papiers, tout le poids de la responsabilité de responsabiliser les pauvres de leur misère. On dit qu'aujourd'hui l'état de droit est menacé. Pour nous c'est clair. Donc on commence à partir de demain à investir l'espace public pour avertir la population. On commence à interpeller les gens qui risquent de se faire rafler, qui risquent de se faire expulser. On va distribuer des formulaires de prévention, dirons-nous, pour que les gens bougent. Et c'est cette mobilisation qui, à mon avis, entraînera par la suite, comme souvent c'est le cas quand la répression abuse, un vaste mouvement d'opinion et de citoyenneté.
Qu'est-ce qu'on veut ? Pour qui ?
Pour
tous. Sarkozy l'a oublié. Sarkozy l'a oublié.
Je m'appelle M. Sissoko Anzouman. Je suis du collectif du 19e et porte-parole des collectifs parisiens des sans-papiers. J'ai 41 ans et ça fait 12 ans que je suis en France. Je viens du Mali. Moi, depuis 10 ans, ça a été très difficile pour moi de venir déjà en France en 93. Et depuis que je suis venu en France, j'ai trouvé que l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès au travail et l'accès au logement était très difficile. Et puis actuellement, je suis sans papier toujours. Je travaille comme les autres, la manutention, la restauration et puis le bâtiment, quoi. En moyenne, je gagne 1100 euros par mois. Moi, depuis 93, je travaillais avant à la plaine Saint-Denis, mais j'habite dans le 94. Au lieu de faire correspondance à Châtelet, par exemple, je préfère aller à Bourg-la-Reine, dans les banlieues là-bas, prendre le RER et traverser Paris sans faire de correspondance. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis en France. Parce qu'actuellement, il y a tellement de répression contre les sans-papiers. Donc il est très important pour nous, les sans-papiers, d'éviter des endroits comme Barbès, Satourouge ou Châtelet ou Gare du Nord, quoi, pour éviter d'être interpellés.
Aujourd'hui, c'est le point de départ. Dès demain, nous allons déjà, et nous vous appelons massivement à être présents, répondre à la provocation des contrôles d'identité qu'il y a eu à Paris. Demain, nous vous donnons rendez-vous à Châteaurouge pour venir laver la France des contrôles aux faciès qu'il y a eu dans ce quartier la semaine dernière.
Contrôle aux faciès, rafle, ces mots sinistres reviennent. Dans les bouches, dans les voix, dans les cris et dans les écrits aussi d'un certain nombre d'associations et d'observateurs comme la CIMAD, Logistie, effectivement, qui emploie ces termes-là, qui constate ce qui se passe dans ces arrestations et ses coups de filet de plus en plus musclés, de plus en plus préoccupants. Effectivement, Karcher et Charter vont bien ensemble. Aujourd'hui, on va passer une heure beaucoup plus calme que cette ce reportage le laisserait entendre. On va au contraire réfléchir à tête reposée sur quoi donc ? Sur le conflit du Proche-Orient et ses répercussions chez nous en France. Sujet sensible, hypersensible, exposé à toutes les instrumentalisations, à toutes les dérives, à tous les délires et à toutes les passions, aussi bien évidemment sur place au Proche-Orient que chez nous, avec dès le départ une réflexion sur y a-t-il ou non répercussions, y a-t-il des choses qui sont attribuées aux effets de ce conflit, mais qui précédait, etc. Ça, c'est un débat d'intello, c'est un débat de plateau, c'est un débat de télé. Mais sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans le quartier, dans le marché, dans le lycée, à l'école, etc. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? Tout débat finit toujours de la même façon, en disant c'est une affaire de volonté politique. Observez, hein, c'est la conclusion de presque tous les débats. C'est une affaire de volonté politique. Ça, c'est une première conclusion. Il y en a une autre qui ne tarde pas à suivre la précédente. C'est une affaire d'éducation. C'est une affaire d'éducation. Mais qui se soucie effectivement de donner des leçons? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas faire l'éloge des donneurs de leçons? De reprendre ce terme, donner des leçons. Quoi de plus beau que de donner des leçons, plutôt d'ailleurs que de les vendre? Il y a une privatisation de l'enseignement qui pourrait faire croire qu'on va vers cette vendre des leçons plutôt que de les donner. Donner des leçons si on a une expérience, si on a une compétence, pourquoi pas? Il y a là quelque chose de très beau. Et on va voir que c'est très beau quand trois intellectuels, et pas des moindres, se donnent la peine, en toute modestie, sans caméra, sans journaliste derrière eux, en toute discrétion, d'aller voir les jeunes dans les quartiers, dans les lycées professionnels, un peu partout, et leur parler de ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire ce conflit israélo-palestinien. Et ces trois personnes sont Leïla Chahid, que vous connaissez bien, qui est la représentante de l'autorité palestinienne en France, Michel Warshavsky, qui est israélien, qui est un intellectuel et un militant israélien, et Dominique Vidal, que vous connaissez aussi, qui est journaliste au Monde diplomatique et qui est aussi un très bon observateur, j'allais dire un expert, ça lui plairait pas, mais un bon observateur du conflit israélo-palestinien et de ses conséquences et de ses répercussions chez nous en France. Or, depuis 2 ans et demi, tous les trois vont comme ça dans les quartiers, dans les lycées, dans une maison des jeunes et de la culture, un peu partout, pour parler avec tout le monde, avec les gens, comme on dit. Et ainsi, ils ont ces dernières années, 2 ans et demi, animé plus d'une quarantaine de débats à travers le pays et rencontré à peu près, disent-ils, 20 000 personnes. C'est une expérience qui est peu connue, qui est peu médiatisée et qui tranche suffisamment avec les haut-parleurs pour que nous nous y intéressions. On part donc pour Marseille, pour cette rencontre entre des jeunes des quartiers et ces trois militants, passionnés et compétents du conflit israélo-palestinien et de ses conséquences en France.
Comme les jeunes des quartiers non pas des universités et des salles de conférences comme on en a dans le centre-ville. Nous, on va vers eux dans leurs centres sociaux dans le quartier, dans les centres d'animation dans le quartier. Mais nous faisons aussi ça parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a aussi des amalgames, pas seulement dans les quartiers, mais en plein centre-ville chez les intellectuels de gauche ou de droite. Hein. Et donc, je crois que c'est pour ça que moi, pour moi, ce n'est pas un message particulier qui est destiné aux citoyens habitant dans les cités, parce qu'ils sont exactement comme les autres. Je pense qu'on caricature les citoyens qui sont les enfants des premiers immigrés qui sont venus, qui sont aujourd'hui des Français avant tout. Moi, ça m'intéresse aussi de les écouter, pas seulement de leur parler.
Et ils ont pas mal de choses à dire. Ils peuvent très très bien partir effectivement du problème israélo-palestinien pour en arriver à leur situation à eux ici. Parce que quelque part, ils vivent quand même une occupation de ghettoisation, tous ces jeunes-là. De vivre au pied de leur cité sans rien avoir à faire, pas de boulot, discrimination faciale, discrimination raciale, etc. Ces jeunes-là peuvent très bien s'identifier à ces Palestiniens.
Mais bien sûr qu'on s'identifie sans transposer. Lorsqu'on s'est identifié aux combattants africains durant l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, vous ne disiez pas « on importe le conflit d'Afrique du Sud ». Pourquoi ? Pourquoi lorsqu'il s'agit seulement de la Palestine, c'est importé ? Ou est-ce que ce serait uniquement lorsqu'il s'agit de Palestine, que ça devient interdit de s'intéresser à la Palestine ? On s'identifie au désir de liberté et c'est très légitime. L'important, c'est s'identifier avec quoi ? Si c'est avec la justice et le droit, eh bien bravo, je crois que le monde entier devrait s'identifier avec le droit, la justice et la liberté.
Et aujourd'hui, plus que jamais, ces convictions, elles le tendent, à mon avis, mais je ne suis pas sociologue, je ne suis pas spécialiste, elles tendent à me faire croire, en tout cas, que c'est un rapprochement au communautarisme, au groupe, en tout cas, de référence. La seule manière aujourd'hui, à mon avis, c'est de se dire, vous pouvez croire dans vos convictions, mais il faut qu'on se retrouve à un moment donné à un endroit. Pourquoi pas autour des valeurs de la République. Et après, repartir sur nos propres familles respectives. J'en suis convaincu. Parce que j'ai pas trouvé...
À mon avis, d'ailleurs, on sent l'attachement à ces valeurs républicaines, peut-être dans ces milieux qui, pour moi, avant tout, sont pauvres. Ils ne sont pas avant tout ni maghrébins, ni africains, ni issus de l'immigration, la phrase qui est presque insultante pour ces jeunes Français. Ils sont avant tout dans des classes sociales moins favorisées que d'autres. Et que leur attachement à la République est réellement profond si la République leur donne leurs droits, si elle arrive à leur assurer le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit au travail, ils n'ont plus aucun problème. Et je pense que c'est fondamentalement dans la perception du droit qu'ils s'intéressent à la Palestine. Ils ne s'intéressent pas à la Palestine parce qu'elle est arabe ou parce qu'elle est musulmane. Ils s'intéressent à la Palestine parce que c'est un cas flagrant de droit non appliqué. C'est là qu'ils s'identifient.
Un cas flagrant de droit non appliqué, et je suis pas sûr que les jeunes qui sont autour de Leïla Chaïd, de Michel Warshavski et Dominique Vidal comprennent tout à fait l'expression, mais ils comprennent très très bien le sens général des paroles quand on leur dit que le vrai problème de départ, c'est pas une question religieuse, d'appartenance religieuse ou une question ethnique, mais évidemment une question d'abord, en l'occurrence, sociale. Avant tout, dans les quartiers où nous nous trouvons, à Marseille, il s'agit de quartiers défavorisés ou déshérités. Comme on dit, on commence par cette lecture sociale. Et puis ensuite, évidemment, c'est l'effort permanent de quelqu'un comme Leïla Chaïd, c'est de ramener toujours et encore le conflit israélo-palestinien sur un terrain politique. Tout faire pour que ce conflit ne glisse pas vers le conflit ethnique, religieux, etc. Or, bien souvent, c'est la dérive terrible que l'on constate. Donc autour de nos trois invités, il y a ces jeunes de cette école de la première chance, ou plutôt de la deuxième chance, qui a été ouverte à Marseille en 1997, école de la deuxième chance qui s'adresse à des jeunes de entre 16 et 25 ans qui sont sortis du système scolaire et qui bon là essayent de comme le nom même de ce centre de cette école l'indique essayent de profiter de la deuxième chance qui leur est offerte. Donc voilà, ils sont là très attentifs, très très concernés par ces sujets. Michel Barchavski, israélien, ils le connaissent pas ou peu. De Winning Vidal, eux, ils le connaissent pas ou peu. Par contre, évidemment, Leïla Chaïd, ils la connaissent plus, mieux, bien sûr, parce qu'elle est très populaire et qu'ils l'ont vu, à la télé. Donc c'est un peu une star. Ça, c'est pour le côté people. Mais on va rentrer dans le sujet, dans les explications, dans une pédagogie d'un conflit extrêmement complexe et très sophistiqué, d'autant plus sophistiqué que pour y avoir accès, pour le comprendre, il faut enjamber toute une série d'entourloupes langagières, de jeux sur le langage qui le rendent d'autant plus complexe et difficile à saisir. Mais on va s'y efforcer avec toute la patience nécessaire. C'est jusqu'à 18h dans la basse vie.
Versé par le diable,
que le pouvoir se manifeste.
Ouais, vu d'en haut, y'a pas de frontières. Wesh, non, ça paye.
Shalom, salam alaikum.
Que cette terre puisse tenir l'éternité. Que cette terre te parle, hein, je te parle de paix, patrie immortelle. Palestine, Israël, t'es le nom vieux du monde. Que la paix se fonde.
Versé par le diable.
Sujet délicat, j'suis né pour l'un et pour l'autre. Je veux que cette putain de paix soit la vôtre. Ce qu'on voit de l'étranger, ce que vous tuez en terre sainte. Tellement d'innocents sont versés et le monde bouge pas. Incroyable comme l'argent se dirige ici bas. Là où on doit se préparer à la fin, je suppose. Ici bas on attend le dernier prophète. Je l'ai entendu, vous avez réfléchi à sa venue. Je crois pas, quoi lui dire devant tant d'erreurs, d'horreurs passées. Quoi lui dire qu'on n'a pas fait exprès, que l'être le sait. Qu'est-ce que c'est que de cohabiter, c'est vivre en harmonie et pas se buter comme vous le faites. L'esclavage sur cette terre est révolu. J'aurais voulu voir les deux plus vieilles ethnies du monde donner l'exemple. Sagesse d'entente et que vos enfants vivent en paix et qu'ils chantent le vécu le cœur ouvert. Je sais que c'est beaucoup demandé, j'ai de l'espérance. J'espère qu'un jour vos petits là-bas feront la différence.
Au nom du Père, au nom du Père, au nom du Père, les fils subsistent.
Que cette terre puisse tenir l'éternité. Que cette terre te parle, hein, je te parle de paix, patrie immortelle. Palestine, Israël, t'es le nom vieux du monde. Que la paix se fonde. Que cette terre puisse tenir l'éternité.
La parole est à Kader. On a quand même l'honneur de recevoir trois grosses personnalités. Il y a des problèmes en Israël et en Palestine. Je crois que c'est pas la peine de le dire. On le sait tous et on les vit tous. On les vit tous différemment. Certaines dans leur trip, dans leur tête, et d'autres même à côté. Pourquoi pas? Il y a Leïla Chaïd aujourd'hui qui est là, qui est la représentante de l'autorité palestinienne en France. Michel Barchavski, qui lui est écrivain israélien et qui se bat aussi pour la paix, c'est ce monsieur qui est là. Et il y a Dominique Vidal, qui est rédacteur en chef adjoint au monde diplomatique. C'est des mots, mais ils sont pas plus intelligents que vous, je vous rassure. Bon, on verra. Mais ça, je crois que nos jeunes, ils vous en feront la démonstration. En fait, l'idée, c'était de savoir, vous, les jeunes de nos quartiers, comment vous vivez vous-même personnellement et même en famille et au-delà, comment vous vivez le problème israélo-palestinien ici en France, dans vos vies quotidiennes, dans votre scolarité, dans votre vie familiale, dans votre vie de quartier, etc. Ben écoutez, vous avez trois spécialistes en la matière qui sont là pour vous écouter et pour vous répondre. Donc allez-y.
Vas-y, Belmondo.
Bon, il y a une caméra. Vous savez pourquoi il y a une caméra? Parce qu'à chaque fois qu'on brûle une voiture, qu'on commet un acte un peu délictueux, un vol, n'importe quoi dans nos quartiers, vous pouvez être sûr d'une chose. Toutes les caméras de France, elles sont là pour décrier notre jeunesse. Tout le temps. Eh ben, nous, on a préféré amener notre caméra, parce que vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une. Et il y a quelques micros. Eh ben, nous, on va faire la publicité de ce qui se passe de bien dans nos quartiers. Parce qu'en matière de solidarité humaine, vous avez de leçons à recevoir de personne. Et montrez surtout, parce que j'espère que toute la France va le voir ça, montrez que tous nos jeunes ne sont pas des antisémites, ne sont pas des racistes, ne sont pas des fascistes, mais que vous êtes bien des enfants du monde, c'est tout. Voilà, allez-y, hein, les gars. Tchatché.
Voilà, c'est Kader Tigilt, qui est animateur de la ville de Marseille et qui vient d'exposer le débat, l'enjeu. La caméra qui est là, c'est celle de Jean-Louis Comolli qui tourne un documentaire sur ses rencontres. Et les micros, c'est ceux de la base. J'y suis, je veux dire, comme médiatisation, c'est limité. Et les jeunes sont là, les jeunes des quartiers, comme dit Kader, sont là et posent leurs questions.
Bon, moi je me présente, je m'appelle Austin, je suis formateur à l'école 20e chance, à la vie collective.
Mon métier c'est esthéticienne et je voulais vous poser une question. Pourquoi en Israël il y a des enfants de 6 à 15 ans, ils sont emprisonnés, violés et abattus?
Bonjour, je m'appelle Kelton, je suis une stagiaire de 2e chance, ça fait 4 mois. Et ma question c'était pour Madame Jaïd et je voulais lui demander son parcours, c'est quoi? Merci.
Bonjour, moi je m'appelle Wissam, je suis un stagiaire de la 2e chance depuis octobre 2005. C'est la même question qu'elle a posée ma collègue. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce parcours-ci?
Bonjour, je m'appelle Amidaï Magnifi, je suis en formation avec la 2e chance.
Et la question que je voulais poser, c'est pour les soldats israéliens. En fait, détruire des maisons sans les enfants, des laisser dehors.
Moi, personnellement, je m'appelle Rachid, donc je travaille en fait dans un laboratoire de recherche pour l'établissement français du sang. J'aurais aimé que vous, en deux mots, quoi, un résumé, présentez l'origine du problème, quoi.
Ce qu'il faut dire, la Palestine, c'est ce qu'on appelle la Terre Sainte. Et c'est là que les chrétiens qui croient au Christ expliquent que le Christ a été crucifié. Il a été à une époque où la Palestine était occupée par les Romains. Il y a eu des révoltes contre l'occupation romaine. Toutes les occupations entraînent des révoltes. Et la plupart des Juifs sont partis. Ils sont partis dans le monde entier. Et pendant des siècles et des siècles, ils ont dit simplement l'an prochain à Jérusalem. Mais c'était juste une prière. Ça ne voulait pas dire plus. Et à partir du 19e siècle, ils ont commencé à rentrer. Et puis, ils ont eu le soutien de Londres, des Britanniques, pour créer un foyer national juif en Palestine. Mais quand on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a en fait qu'un tiers de la population de la Palestine qui est juive. Et les terres que les Juifs ont achetées en Palestine, c'est 7% à peu près de l'ensemble de la superficie. Alors qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, 9 ans après, il y a un État d'Israël? Ce qui fait ça, c'est, comme vous savez tous, que pendant la guerre, les nazis ont fait un génocide. Et donc après la guerre, les grandes puissances ont dit, on va résoudre le problème, on va créer un État juif en Palestine. Et on va faire un partage, la moitié de la Palestine va être arabe, la moitié va être juive. Pour être franc, c'était déjà un peu injuste. Parce que les Palestiniens, ils étaient là, et en plus, ils n'avaient aucune responsabilité dans le génocide des Juifs, et des Tziganes, et des Malabans. Ils n'avaient rien fait. On ne peut pas dire que c'était leur faute. Le problème, en plus, c'est que ce partage de la Palestine, il n'a même pas eu lieu. Parce qu'il y a eu une guerre en 1948, on pourrait expliquer pourquoi, comment, mais on n'a pas le temps. Et qu'au bout de cette guerre, il y a eu un État d'Israël, plus grand que prévu par les Nations Unies, mais l'État arabe de Palestine était mort-né, il n'a pas vu le jour. Il a été dépecé, on peut dire, entre Israël, la Jordanie qui a pris la Cisjordanie, l'Égypte qui a mis la main sur Gaza. Et 800 000 Palestiniens ont été expulsés. C'est ça l'origine de toutes les guerres qu'on a eues depuis. Mais disons que l'idée qu'on peut gommer comme ça un peuple, le peuple palestinien, de la surface de la terre, et qui va s'assimiler dans les autres pays arabes, comme si on disait aux Alsaciens, vous avez qu'à aller vous assimiler en Autriche ou en Allemagne. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que Leïla Chaïd répète tout le temps, et on le répète avec elle parce qu'on est d'accord, Michel et moi, qu'il n'y a pas d'autre solution, si on veut la paix pour longtemps, que de permettre aux Palestiniens d'avoir leur État, à côté de l'État d'Israël, chacun vivant en paix, en sécurité, en coexistence. Malheureusement, jusqu'à maintenant, malgré des tentatives de paix, comme on a vu avec Rabin et Arafat en 1993. On n'a pas réussi ça. Les Nations Unies, je termine là-dessus, ont voté des centaines de résolutions pour dire tout ça, tout ce que je vous ai dit, et jusque-là, elles n'ont pas été appliquées. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est d'accord. Il y a une Palestinienne, un Israélien, un Français. Qu'est-ce qui nous unit ? Ce qui nous unit, c'est qu'on veut le droit, l'application des résolutions des Nations Unies, deux États côte à côte. Voilà un peu en très 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 résumé. À part ça, vous pouvez lire les livres, il y a des centaines de pages, c'est beaucoup plus détaillé. Mais c'est en résumé l'histoire de ce conflit.
Dominique Vidal, qui est aussi historien, et travaille au Monde, il est journaliste au Monde diplomatique, mais est aussi historien, essaye de résumer cette longue histoire de la Palestine et de ce conflit dont la nature est particulière, puisqu'il s'agit d'un conflit existentiel, doublement existentiel, puisque il s'agit de deux peuples qui chacun perçoit l'existence de l'autre comme une négation de sa propre existence. Et c'est évidemment quelque chose de un des derniers conflits de ce genre sur cette planète, qui fait écho évidemment à nos histoires, notre histoire française, mais aussi notre histoire longue, la création d'un État-nation, etc. Toutes choses qui sont enfouies dans nos mémoires, dans nos archéologies mentales, disons, mais aussi qui fait écho aux éléments de notre société, aux composantes de notre société, la composante juive de notre société. On a une communauté juive importante en France, et aussi la communauté, disons, arabo maghrébine, musulmane, enfin ceux qui en sont issus, qui sont nombreux, et en France, et puis l'hypothèque et les contentieux jamais clairement dits de la période de la décolonisation. Donc tout ça converge, fermente et fabrique ces souffrances, ces soupçons et ces incompréhensions que nos amis essayent valeureusement de regarder avec l'œil de la raison, sans que pour autant ni conviction ni passion n'en soient étrangères.
38 ans d'humiliation et d'occupation, c'est quelque chose que c'est une des occupations les plus longues dans l'histoire. Et donc, on ne peut pas avoir une occupation sans avoir de résistance. Et la violence n'est pas une idéologie ou une culture de la civilisation musulmane, comme certains pensent, mais la conséquence d'une résistance à l'occupation.
Si vous écoutez bien ce qu'elle vous a dit, ça veut dire que ce n'est pas un problème de juifs et de musulmans, ou de juifs et d'arabes, c'est un problème d'occupation. Et pour finir ce problème, il faut une solution politique. C'est donner au peuple qui est occupé sa liberté, son État, et ça mettra fin et à l'occupation et aux horreurs qui vont avec l'occupation.
Mais pourquoi c'est si long ?
Parce qu'il y a un tel déséquilibre de force. Ça veut dire que les Palestiniens n'ont pas d'armée et qu'Israël a des alliances internationales très fortes qui la soutiennent et que les Palestiniens se retrouvent très seuls.
Dans tous vos propos, vous ne trouvez pas que vous avez un peu manqué de nuances ? Parce qu'on trouve que dans tout ce que j'ai entendu dire, là, dans ce que tu as dit, notamment pourquoi le monde ne tombe pas sur Israël, c'est comme si les Palestiniens, eux, n'avaient jamais rien fait. Il ne faut pas oublier qu'ils ont commis des actes terroristes. Il ne faut pas oublier Munich, qu'ils ont tué toute la délégation olympienne israélienne. Il y a eu des actes qui ont été abominables. Quand ils montent dans des bus et ils tuent des enfants. Ok, ce que font les militaires israéliens, c'est dégueulasse, ça peut paraître dégueulasse. Mais ce que fait un terroriste du Hamas, c'est tout aussi dégueulasse. D'ailleurs, vous disiez qu'ils les appellent terroristes. Je suis désolé, on ne les appelle pas terroristes, c'est des terroristes. Lorsque l'armée israélienne tue le cheikh Yassine, j'applaudis des deux mains. Et ça, c'était pas à l'armée israélienne de le faire. Ça, c'était à Yasser Arafat, ou même à l'autorité palestinienne de l'arrêter. C'était à l'autorité palestinienne de l'arrêter. Parce que c'était un homme qui constamment lors de ses prêches à la mosquée, disait qu'il fallait jeter les juifs à la mer.
Non, je crois
que... Et ça s'entend souvent. Oui, c'est pour ça, je pense qu'il faut un peu rajouter de la nuance.
Oui. Mais moi, je pense que vous parlez en termes, c'est votre opinion, de penser que Ahmed Yassine doit être assassiné, Yasser Arafat doit être
crucifié. Non, je n'ai pas mal compris.
Non, mais vous parlez en termes de vos opinions personnelles, c'est le vôtre.
J'ai juste qu'il faut mettre un peu de nuance.
Non, excusez-moi, nous parlons en termes d'histoire, de faits historiques et de droit. Mm-hmm. Le monde a des règles de droit. L'occupation du territoire par la force, la destruction des moyens de survie d'un peuple entier, c'est illégal au monde entier, pas seulement par rapport à Israël.
Non, mais c'est très bien.
Donc ne me dites pas que c'est une question de si vous les appelez terroristes ou résistants, c'est une question de droit. La résistance.
Il y a divers moyens de résistance aussi.
La résistance, quelquefois, prend des formes terroristes lorsqu'on s'attaque à des civils. Mais l'occupation est la plus grande forme de violence parce qu'elle, elle punit, comme je viens de répondre, toute une société, pas seulement une personne. Lorsqu'on occupe pendant 38 ans 3,5 millions de personnes, on punit les 3,5 millions, dont les femmes, dont les enfants, qui ne peuvent ni travailler, ni aller à l'école, ni se soigner, ni voyager, ni même avoir un passeport. Jusqu'à quand il va pouvoir l'acquérir? C'est évident qu'il finit par péter les plombs et avoir recours à la violence.
Voilà, le débat est engagé. On voit que c'est pas un auditoriat absolument passif. Il se trouve des gens dans l'assistance, des jeunes dans l'assistance, pour remonter un peu les bretelles de nos conférenciers, ce qui est parfait, ce qui donne de l'obligation de trouver des arguments, évidemment, de favoriser, disons, une lecture politique du conflit au lieu d'essayer de remonter dans l'engrenage et dans l'escalade des violences. À ce régime-là, il y a toujours celui qui a commencé, c'est celui qui a commencé, et on ne s'y retrouve pas. Donc on continue. Là, on vient d'évoquer les responsabilités palestiniennes. Il y a évidemment aussi les responsabilités israéliennes, et c'est Michel Warshawski, qui est israélien, qui s'y colle.
Des consommateurs d'information. Ça se travaille une information, ça se travaille par en haut, ça se manipule parfois. Alors, si on parle peu des Israéliennes et des Israéliens qui s'opposent à la politique d'occupation, de colonisation, c'est d'abord et avant tout parce qu'on est faible. Si on était 1 million, dans la rue, il y a une semaine, comme l'ont été les colons, toutes les chaînes de télévision nous auraient montré. Donc, il faut être honnête. Le mouvement de ceux qui s'opposent aujourd'hui, c'est un mouvement qui est faible. Il ne faut pas non plus exonérer notre société de sa responsabilité. C'est pas Sharon, il y a un mauvais bonhomme qui est là en haut, et tout le peuple, il est propre, il est beau, et seulement... c'est pas vrai, Sharon a été élu démocratiquement. Il y a une grande majorité au Parlement qui soutient sa politique. Il y a dans la société israélienne, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu des moments où après les massacres, après l'invasion du Liban et les massacres de Sabra et Shatila, il y avait une majorité en Israël qui s'est exprimée dans la rue pour dire on veut pas de cette politique. Oh, pas parce qu'on aime les Arabes, mais parce qu'elle nous coûte trop cher, parce qu'elle détériore notre image de marque, parce que on n'a pas envie de se faire tuer au Liban. Et toutes ces raisons ensemble, c'est formé rapidement, en quelques mois, en un an, une majorité en Israël qui dit on veut pas de votre guerre. Et qui a imposé au gouvernement le retrait. Aujourd'hui, il y a en Israël une majorité, et là il faut comprendre l'importance du 11 septembre, qui a cessé de voir le conflit comme un conflit à propos d'une colonisation, à propos d'une occupation, et ne voit que le terrorisme. Et je dirais quelque part, quand je t'entends, j'entends tellement d'Israéliens. Non pas que c'est pas vrai tout ce que tu dis plein de choses vraies, mais tout d'un coup, on voit que ça. Il y a le terrorisme. Alors, il y a des actes terroristes. Mais tout ça, c'est sur un terreau d'occupation. Tout ça, c'est sur un terreau de colonisation. Et ça, on a oublié un autre point que, pour moi, la chose la plus grave qui puisse se passer à un peuple, à un État, c'est d'être dans une situation d'impunité. La loi, elle protège d'abord le faible. Et il faut qu'il y ait une loi. Et je pense que après la victoire sur le nazisme et sur le fascisme, la communauté internationale s'est donné des instruments, au moins des intentions. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de Genève, l'ONU. En disant, c'est pas le plus fort qui fait ce qu'il veut. Et il y a eu, on a connu quand même plusieurs décennies d'une volonté internationale qui allait, qui n'était pas seulement la volonté des puissants. Aujourd'hui, on est dans ce que Bush appelle l'unilatéralisme. Plus d'ONU, plus de conventions de Genève, la loi n'a aucun sens. Il a dit les conventions de Genève ne sont plus applicables aujourd'hui parce qu'on est dans la guerre contre le terrorisme.
La guerre préventive.
La guerre préventive, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'être attaqué pour attaquer, j'attaque parce que je crois ou parce que je fais semblant de croire que l'autre va m'attaquer. Mais c'est vachement dangereux pour tout le monde. Un pays, et surtout un petit pays comme Israël, qui se sent au-dessus des lois, qui peut faire ce qu'il veut. Mais c'est comme un gamin à qui il n'y a plus aucune règle. Ni ses parents, ni ses maîtres, ni ses copains lui disent « Attention, fais gaffe, ça c'est interdit. Tu peux pas piquer à ton copain tout ce que tu veux. Tu peux pas casser la gueule à qui tu veux. Tu vas le payer. » Mais si le gosse ne sait pas qui va le payer, il continuera jusqu'au moment où il se casse la figure. Et pour moi, cette situation, il nous met dans une situation dangereuse.
Ils ont besoin de l'entendre.
Ce qui est faux, c'est de considérer que tout citoyen de confession juive ou de culture juive ou de foi juive est un Israélien, parce que ce n'est pas le cas. S'il était Israélien, il habiterait Israël. S'il est citoyen français, tout en étant juif, il est français. Et il n'est pas responsable ni d'avoir élu Sharon parce que c'est pas lui qui l'a élu, ni d'avoir participé à l'occupation puisqu'il est citoyen français. Ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre nationale contre un gouvernement qui a une pratique illégale d'occupation d'un territoire palestinien et de négation des droits du peuple palestinien. Et là où il a un peu raison, c'est que dans les dernières années, on a eu l'impression qu'on a amalgamé Israéliens et Juifs. Et ce qu'il ne faut pas, c'est l'amalgame de l'identité juive avec l'identité israélienne.
Certains se servent du prétexte du conflit du Proche-Orient pour déclencher des actions anti-juives, ou anti-arabes d'ailleurs, ou anti-noirs. Donc on est dans tout à fait autre chose. On est dans des manipulations, et il faut savoir les combattre sans exception.
Ceci dit, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis fou de rage, contre les dirigeants, certains dirigeants politiques et spirituels de la communauté juive de France, c'est qu'eux, ils jouent ce jeu. C'est lorsque tel rabbin, grand rabbin de telle ville, dit « Nous sommes tous avec Sharon », il prend les juifs français en otage, sans leur demander leur avis d'abord, ils prennent une grande responsabilité parce qu'ils, précisément ce qu'on essaye de dire, il y a des amalgames, surtout ne pas confondre, surtout ne pas faire l'amalgame. C'est facile pour un jeune français qui soit d'origine française ou d'origine autre de dire, mais c'est eux-mêmes qui le disent. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est leurs propres dirigeants qui le font.
Difficile d'expliquer tous ces termes-là. Quand on veut s'adresser à un grand public, à un vrai public, j'allais dire, non pas le public des intellos entre eux, ou des spécialistes entre eux, ou des intellos médiatiques qui se battent à coups d'ombrelles et de coups d'épée dans l'eau. Aller vraiment, modestement, tranquillement, patiemment, à la rencontre des publics, là, des jeunes, des quartiers, en l'occurrence de Marseille, et puis les écouter aussi, parce qu'ils ont leur vision, ils ont leur langage, ils ont leur vécu surtout, qui est extrêmement précieux, et aussi précieux que l'expérience des autres, et qui échappe ou qui ne s'encombre pas de toutes les inhibitions au niveau du langage et à tout qui essaye d'échapper, qui doit échapper à ces manœuvres d'intimidation et d'inhibition qui voudraient nous faire taire sur ce conflit.
Scène. Qu'est-ce que tu as retiré, toi, de ces débats?
Déjà, il y avait la présence de trois grandes personnalités. Ça, c'était déjà bien. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout dans les quartiers. Ce que j'ai retiré, surtout, c'est que on pouvait, je veux dire, les différents jeunes qui étaient là, ils étaient ouverts à tout ce que les autres disaient. Ils n'étaient pas comme on peut les croire souvent, comme on les voit, plein de préjugés, plein de haine antisémite, c'est surtout ça qui est important. La preuve, il y avait un interlocuteur qui était juif, israélien. Il a été très bien accepté. Tout le monde lui a parlé, tout le monde lui a posé des questions. C'est ça que j'ai surtout retiré, que on voit les jeunes d'une autre manière. C'est pas forcément des jeunes violents, bêtes, parce qu'ils viennent des quartiers nord, parce qu'ils viennent des banlieues. Mais ils peuvent s'intéresser à tout et ils sont pas forcément pleins de préjugés, pleins de, plein de haine, quoi.
C'est marrant ce que tu dis, parce que tu avais peur, parce que deux d'entre eux, a priori, étaient juifs, qu'on n'ait pas envie de discuter avec eux.
Ouais.
Il y a tellement de cloisons en ce moment.
Il y a beaucoup de cloisons. Moi, vous savez, je vois souvent dans les quartiers, je vois souvent des jeunes, malheureusement, qui ont des problèmes de scolarité ou des problèmes de culture, qui sont plein de préjugés contre les juifs, plein de préjugés antisémites, sans les connaître, sans connaître un seul. Sans... Et c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'ils puissent rencontrer des juifs, des personnes de religion judaïque ou des israéliens, pour leur montrer que bah, c'est des gens normaux. C'est pas des tueurs acharnés, c'est des gens normaux qui comprennent les problèmes des Palestiniens, qui peuvent comprendre le mal-être arabe, comme l'a écrit dans son bouquin Dominique Vidal. Donc voilà, c'est pour ça. Il faut vraiment que ça se généralise, qu'il y ait des rencontres plus souvent entre les communautés, entre les individus juifs et musulmans. On voit souvent le conflit israélo-palestinien à la télé. Et les jeunes d'origine musulmane, qu'est-ce qu'ils en retirent? C'est pour ça que je voulais apporter de la nuance, moi, dans le débat, c'est que c'est toujours les Israéliens, c'est les méchants, c'est des démons, ils tuent tout le monde, ils tuent les enfants, ils tuent les vieux, ils tuent les parents, ils tuent, parce que c'est justement ce genre de stéréotype de voir tout ça à la télé qui va faire d'eux des pseudo-antisémites, quoi. Ils vont devenir antisémites à cause de ça, quoi. À force de voir des choses comme ça dans les médias, ils vont se dire, regarde, les juifs sont tout le temps en train de faire ça, pourquoi moi je vais pas aller sur la synagogue et taguer des croix gammées ou, voilà. Faut apporter de la nuance dans les débats. Et c'est la même chose pour les Palestiniens. C'est la même chose. Il y en a qui militent de manière bien, comme le fait Leïla Chaïd, et il y en a qui le font de manière très mal. En poussant, comme je disais, en criant du haut de leur mosquée ou du haut de n'importe où, quoi. Faut jeter les juifs à la mer. Ça, c'est pas normal. Les juifs, comme tout autre peuple, ont droit à avoir une nation, ont droit à avoir un pays, ont droit à avoir un état.
Toi, tu es français?
Je suis français, ouais, d'origine algérienne.
Musulman?
Musulman, ouais.
D'accord. Est-ce que tu penses qu'on a vite tendance, quand on est français, d'origine, je sais pas, algérienne, ouais, à s'identifier justement à la cause palestinienne? Et si oui, pourquoi?
Parce qu'on les voit, la première chose, ils parlent arabe. Comme beaucoup de jeunes d'origine algérienne ou maghrébine, ils parlent arabe. Ils vous ressemblent physiquement, dans les types humains, tout ça. Ils sont bien, on dirait qu'ils ont la même culture que vous et ils sont musulmans. Vous les voyez, ils vont à la mosquée 5 fois par jour. Donc voilà, ils vous ressemblent énormément. Donc quand vous les voyez se faire attaquer, vous avez l'impression qu'on vous attaque à vous. Vous avez l'impression qu'on attaque votre culture, qu'on attaque votre religion. Donc vous prenez mal. Vous voyez le juif comme le palestinien peut voir le juif comme l'ennemi, vous allez le voir aussi comme l'ennemi. C'est pour ça. On s'identifie facilement. On s'identifie beaucoup plus à la cause palestinienne qu'à la cause tchétchène. On va pas aller attaquer la communauté russe, hein. On va pas aller attaquer s'il y a des Russes en France. Ah, tu es russe, non. Mais par contre, un juif, oui, ça peut arriver. Mais après, il y a plein de choses aussi qui jouent. Faut voir les jeunes dans les quartiers aussi. Faut voir la situation. Ils ont l'impression. Ça joue beaucoup aussi. D'être exclu. Les jeunes dans les quartiers, jeunes d'origine maghrébine et tout. Moi, c'est pareil. Ils ont l'impression d'être exclus. On a l'impression de, je m'appelle Hassan, je vais pas trouver de travail plus tard parce que je m'appelle Hassan, alors que j'ai mon bac, tout ça, j'ai fait une classe préparatoire à Sciences Po, tout ça. Donc, pourquoi je trouverais pas de travail? Et ce que voient ces jeunes aussi souvent, ils voient que la communauté juive en France, elle paraît riche. La communauté juive, elle paraît riche. On voit des chefs d'entreprise, des patrons d'entreprise. On le voit, on le reconnaît au nom. Ben Hamou, Citruc. Donc, on voit directement que c'est des juifs. Donc, on se dit pourquoi nous, on est exclus? On a une culture étrangère, peut-être, on est d'origine étrangère. Pourquoi nous on est exclus? Mais pourquoi eux aussi ne sont pas exclus? Puisque après tout, ils ont une culture étrangère, ils sont d'origine étrangère, ils sont juifs, ils sont pas français. Ils sont juifs, ils sont pas français, ils sont israélites. Pas israéliens, mais israélites. Ils sont israélites. Pourquoi eux seraient exclus? Et quand on voit eux réussir, alors que nous, ça nous semble interdit, souvent c'est ça qui pousse aussi à se radicaliser. On comprend pas pourquoi. Eux ont le droit de réussir, eux peuvent réussir, ils ont dirait qu'ils réussissent de partout. C'est souvent ce que disent les jeunes. Moi, en fait, ce que j'ai fait très jeune, j'ai mis de la nuance. Déjà, je me suis pas identifié. Je me suis pas identifié à un Palestinien. Je me suis dit non, je le refuse. Je me suis dit, je suis Hassan Genfissi. Bon, je suis Kabyle, je suis d'origine algérienne, je suis pas Palestinien. Les Palestiniens, c'est une chose. Moi, c'est une autre chose, hein. C'est complètement différent. Donc voilà, c'est pour ça. Mais j'ai fait ce travail que souvent ne font pas de jeunes. Je suis parti lire les Anciens Testaments, je suis parti lire les biographies de Théodore Herzl, celui qui a lancé le sionisme, quoi. La biographie de Ben Gurion, le premier ministre israélien, tout ça. Ça m'a permis de voir qu'il n'y avait pas tout qui était tout noir et tout qui était tout blanc. Je veux dire, en France, on est bien, pourquoi est-ce qu'on va se chercher d'ennemis? Alors que, j'ai pas d'ennemis.
On est bien et pas toujours. En même temps, c'est toi aussi qui dis que dans les quartiers, il y a quand même une exclusion, une injustice.
Si je voudrais trouver un ennemi, mon ennemi serait le français. Pourquoi le juif? Mon ami serait français. C'est le français, peut-être, plus tard, qui m'interdira d'avoir du boulot. C'est les Français qui, pendant 132 ans, ont colonisé l'Algérie.
Ouais,
c'est les
Français
qui ont tué 15 personnes de ma famille durant la guerre d'Algérie. Donc, ce serait facile d'avoir pour ennemi le français.
Mais non, moi je suis moi, ça c'est du passé. Si je me vis comme un enfant de la colonisation, on est tous, ouais, on est tous des enfants de la colonisation. S'il n'y avait pas eu la colonisation justement française, ben, on ne serait pas là actuellement.
Et tu penses qu'aujourd'hui il y a une sorte de nouveau colonialisme à la française? C'est ce qu'on dit là un peu en ce moment, il y a des mouvements comme ça.
Dans les banlieues?
Ouais.
Je ne pense pas que ce soit du néocolonialisme. On ghettoise, ça c'est vrai, on ghettoise parce qu'on en a peur. On a peur de ces jeunes, l'État français ne les comprend pas. Et surtout ce qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est que ces jeunes ont une culture, une mentalité, mais complètement différente. On a hérité des manières de penser souvent de nos parents. Les Français, par exemple, ont l'impression qu'on est violent. Spontanément, on est violent. Notre culture nous pousse à la violence. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi aussi, quand on dit « ouais, on va s'intégrer », mais ils ont l'impression que ces jeunes ne veulent pas s'intégrer. Parce que d'un côté, quand on parle d'intégration, il y a aliénation de sa culture. Mais ces jeunes-là, ils veulent pas aliéner leur culture. Ils veulent rester musulmans, souvent. Ils font le ramadan, ils prient de plus en plus, ils vont à la mosquée, tout ça. Ils veulent pas s'aligner. Tu t'intègres, donc tu dois faire comme. Et si tu fais différemment, ben, tu seras mal vu. On va arriver bientôt à la 4e génération de ces enfants issus de l'immigration. Si à la 4e génération, on continue encore les nommés d'arabes, je pense qu'il y a vraiment un problème. Faut pas dire ça.
T'as toi-même dit arabe tout à l'heure.
Ouais,
toi, t'as le droit
vrai,
de le dire, mais Vidal a pas le droit de le dire.
Ben non, justement, lui, il a pas le droit de le dire. Parce que lui, il écrit des bouquins. Le jour où j'écrirai des bouquins, ben, je dirai pas arabe.
Tu diras quoi?
Hein? Je sais pas, ben, je trouverai un terme peut-être, je dirais les nouveaux français, pourquoi pas. Les nouveaux français.
On continue demain. C'est bien hein, d'entendre la bouche, comme dit Kader. Ah, il est de la bouche celui-là, il a la tchatche. C'était Hassen, donc voilà. Un auditeur parmi d'autres au cours de ces rencontres et de ces débats entre Leïla Chahine, Michel Barchavski et Dominique Vidal et des gens des quartiers, des jeunes qui s'intéressent, vous avez entendu, et qui se passionnent pour le sujet du conflit du Proche-Orient et ses répercussions chez nous. Merci à tous, merci à Kader Dikilt et aux élèves de l'école de la Deuxième Chance à Marseille. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Pour les repères de la Bastille, j'y suis. Vous allez sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, et vous allez sur France Inter et vous trouvez la rubrique de l'émission La Bastille, j'y suis. En principe, si ça marche, ça marche pas toujours, mais en principe, si ça marche, vous devez voir le calendrier des repères de La Bastille, j'y suis, des amis de La Bastille, j'y suis, par exemple à Guéménos, à 5 km, Guéménos, pardon, à côté d'Aubagne. C'est mercredi qu'on se réunit à l'île de Groix, c'est tous les jeudis à partir de 20h30 au bateau Ivre, à Locmaria, à Bouc-sur-Hulle dans les Vosges, c'est tous les premiers mardis à partir de 20h à partir du 4 octobre, donc c'est très bientôt, et ainsi de suite. Et puis mercredi 28 septembre à 19h, c'est à Saint-Nazaire à l'appart 182 rue de Pornichet. Merci à tous. Technique aujourd'hui, Cécile Bonhomme et Alain Armstam. Yann Chouquet, Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission, modeste et géniale, assistée de Pascal Le Pascariello. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Et le mail de là-bas, si j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.